c'est le temps qui fait la panique.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission qui vous explique l'inflation des paroles dangereuses en RDC.
Chaque jour, dans les médias et surtout les médias sociaux, nous constatons que la manière dont nous parlons entre nous crée de plus en plus de divergences.
Et souvent, on ne réalise pas que nos paroles peuvent provoquer un sentiment de haine envers l'autre.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capi.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est le temps qui fait la panique, votre émission qui alerte sur la prolifération des discours dangereux en République démocratique du Congo. Ici, nous analysons les mots, les discours, les langages et leur impact sur notre vivre ensemble. Je m'appelle Ronelly Ntibonera, avec moi dans ces studios, Babel Mpongo. Bonjour Babel.
Bonjour Ronelly, bonjour à toutes et à tous. Alors cette semaine, nous portons notre attention sur la multiplicité des tentatives et de coups d'État sur le continent africain. Des groupes de militaires issus des forces loyalistes sont en grande partie pointés du doigt dans ces démarches trop peu soutenues pour accéder au pouvoir.
Exactement Babel. Les cas les plus récents concernent la Guinée-Bissau et le Bénin. Au Bénin, par exemple, le président Patrice Talon a vu son pouvoir sauvé de justesse d'une tentative de coup d'État orchestrée par un groupe de soldats. En Guinée-Bissau, en revanche, Oumaro Sissoko Embalo se vit destitué par la haute cour militaire de son pays, provoquant l'inquiétude de membres de la CEDEAO face à la multiplication des coups d'État dans la région. Ces gestes, malheureusement considérés comme antidémocratiques, bénéficient pourtant du soutien d'une frange de la population et de certains panafricanistes. Mais comment comprendre une telle attitude et quel danger cette légitimation de coup d'État peut avoir sur la démocratie?
Et voilà, pour en discuter, nous recevons en premier Patrick Baala. Il est acteur politique et universitaire congolais, très actif en ce qui concerne la gouvernance et l'engagement citoyen. Bonjour Patrick, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Avec nous également Simon Mukenge-Cicéron, licencié en sciences sociales, administratives et politiques à l'Université de Goma. Il est aussi initiateur et coordonnateur national du réseau des mouvements citoyens appelé Fédération de Forces Vives de la Nation. Bonjour Simon et merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci Monsieur Rolly.
Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, écoutons un premier extrait de notre sketch. La scène se déroule dans un bureau du comité estudiantin. Ici, un groupe d'étudiants membres de la brigade universitaire vient d'opérer un coup de force en destituant leur comité. Suivant.
Je vous rappelle, ici, c'est les bureaux du comité des étudiants.
Kitoko,
donc fais gaffe.
Kitoko, tais-toi. Tais-toi, je dis. On ne vous reconnaît plus. Toi, être au comité des merdes, là. Allez, dehors.
Calme-toi.
Vous êtes limogé.
Calme-toi un peu. C'est quoi?
Non. On en a assez de votre injustice.
Quelle injustice?
Vous êtes posé dans vos fauteuils, clim à fond, pendant que nous, on rentre dehors. Tu trouves ça normal?
J'ai dit, hein. Et c'est donc avec cette force brutale que tu crois résoudre le problème, c'est ça?
Tout moyen est permis pour libérer la communauté des étudiants. Non. Nous sommes venus installer un nouveau comité. Point.
Enfin!
Oh, Nzambi! Voilà des vaillants qui vont nous libérer.
Non. Le gars, on peut se poser et discuter.
Non, ça suffit qu'il tombe. Ça suffit, tu dégages. Tu vas dégager ici maintenant. Tu vas dégager. On ne veut plus de vous.
Dehors.
Kitoko, tais-toi, on ne vous reconnaît plus, toi et ton comité de merde. Allez dehors, vous êtes limogé, lance un des personnages, Patrick Baala. Quelles sont les principales raisons qui poussent certains citoyens à soutenir verbalement les coups d'État, voire les rébellions?
Merci Ronelly d'abord pour l'invitation, je vous salue, je salue Monsieur Simon en face de moi et les milliers des auditeurs qui nous suivent à pareil moment. Les raisons sont multiples, mais on peut les focaliser dans quelques volets. Le premier volet, c'est un problème d'abord d'éducation civique. C'est-à-dire les structures qui doivent accompagner cette démocratie ne jouent pas leur rôle. Ce qui fait que dans la grande masse, on retombe dans ce que j'appelle l'ignorance collective, l'ignorance sociétale. Et ça fait qu'il y ait cette dégénérescence de la compréhension politique. Alors, on va voir que les gens restent caricaturés, n'est-ce pas ? Ils caricaturent la politique sur base des individus. L'effet d'individualiser, l'effet de personnifier la politique, généralement en Afrique, ça fait qu'on peut tomber à ces situations parce que le peuple ne comprend pas réellement ce qu'il y a. La deuxième dimension, c'est la qualité des animateurs politiques. Parce que nous parlons de démocratie, la qualité des animateurs politiques qui se présentent lors des échéances électorales, parce qu'on parle de démocratie, il faut savoir que la démocratie est assise sur quatre piliers fondamentaux. C'est sur base de ces quatre que les gens vous jugent. Qui vous juge ? La masse populaire, elle n'attend voir que des résultats. S'il y a violation des droits fondamentaux, des droits de l'homme, cette population crie contre vous. S'il y a de l'injustice sociale, cette population crie contre vous. Et quand il y a des difficultés de gouvernance en matière de détournement, de corruption, tout ce qui est en train de se passer, ça fait que ça crée de frustration. Et il y a maintenant des récupérateurs à nos troubles. C'est-à-dire, généralement, ce sont des frustrés politiques qui vont profiter de la naïveté des différents peuples pour pouvoir balancer ces genres de coups de force, faisant en sorte que le peuple applaudisse. Quand nous prenons entre guillemets ce qui se passe, par exemple, au Cameroun, quelqu'un qui a fait autant d'années, 10, 20, 30, 40 ans, c'est des lésures. Et les gens ne savent plus vous consommer. Alors, comme nos populations n'ont pas la capacité de chasser souvent les gouvernants, et ces pêcheurs en eau trouble peuvent en profiter pour déstabiliser ceux qui ont fait le plus longtemps au pouvoir.
Vous venez d'évoquer les soutiens affichés. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que ces soutiens affichés sont synonymes de l'adoption par la population de l'idéologie prônée par les putschistes ?
Il n'y a pas d'idéologie. Dans le putsch, c'est la politique de haut toit de là, moi je m'y mets. Vous comprenez ? On a connu ça par exemple en République démocratique du Congo. Mobutu fait son coup et il s'est dit dans 5 ans je retourne le pouvoir aux civils qui doivent s'organiser. Mais 5 ans pour Mobutu, c'était devenu 32. Vous voyez, peut-être oui, c'est réellement ces 5 ans parce que 3 plus 2, ça fait 5 ans. Ouais, n'est-ce pas ? Ça lui a donné ces 5. C'est dire, on amène un message de destruction de l'autre. Parce que je parle encore de l'individualisation et de la personnification de la politique. Donc, pour que je sois accepté, il faut que j'attaque l'autre frontalement et surtout sur des faits banaux. Vous voyez ? Des faits banaux, des faits de vie privée, mais pas dans la gouvernance, pas dans la gestion, pas dans l'intérêt collectif. Donc, je m'attaque à celui-là, on se dit « Ah, c'est celui-là qui est plus fort. C'est lui qui insulte l'autre, c'est le meilleur. » Voilà ce qu'on a donné comme éducation dans la population. Si tu n'insultes pas, tu fais des analyses, ça, ce n'est pas un bon politique. Un bon politique, c'est celui qui sait attaquer l'autre face à face, il lui parle, il lui dit des vérités. Mais quelles sont les vérités qui peuvent apporter le bénéfice commun à tout le monde ? Il n'y en a pas.
Merci Patrick Bahala pour cette intervention. Je me tourne vers vous, hein, Simon Mukenge. Monsieur Bahala vient d'évoquer déjà certaines raisons qui expliquent que certaines populations soutiennent le coup d'État. Selon vous, alors, quelle autre raison pousserait certaines populations à continuer de soutenir les coups d'État alors même que l'histoire démontre qu'ils n'ont finalement pas conduit à des changements durables ou positifs ?
Merci madame pour la question. Je salue le peuple congolais, je salue tous les activistes qui nous suivent à ce moment. Ce qu'il faut retenir à la question, madame, c'est que, généralement, le continent africain, c'est le continent qui contribue des coups d'État au monde. Quand vous prenez la proportion, c'est toujours les colonies françaises qui sont embarrassées par les coups d'État de façon répétitive. Ça, c'est la genèse depuis 1955. Et quand vous prenez de 1955 et en 1960-65, c'était une lutte des élites politiques, généralement en Afrique. Et après cette génération de 50 à 80, on a eu une petite possibilité de stabilité en Afrique et les coups d'État ont disparu. Et arrivé les années 90, les années 2000, et quand vous prenez maintenant la proportion des années 2010 jusqu'en 2014, vous allez comprendre que ça s'est transformé, par exemple, le printemps arabe qui a remplacé les coups d'État en Afrique, c'est-à-dire c'est le printemps arabe en Afrique maghrébine qui avait remplacé beaucoup plus les coups d'État et c'était les frustrations populaires. Et quand vous prenez la révolution égyptienne, quand vous prenez la révolution tunisienne, quand vous prenez même la révolution libyenne qui s'était transformée à une guerre civile rapidement possible, C'est une mutation vers les coups d'État qui n'ont pas réussi pendant longtemps. Et les peuples ont pris en charge leur lutte non violente. Malheureusement, ça s'est transformé à la violence parce que quand vous êtes face à la violence n'engendre qu'un cycle de violence. Qu'est-ce qui fait à ce que les coups d'État soient répétitifs, surtout sur le continent africain, je m'excuse. C'est parce que il y a des raisons, par exemple, les raisons de frustration populaire. Il y a aussi absence de redevabilité. Il y a aussi contestation électorale. Il y a également la crise sécuritaire, la crise de gouvernance. Et quand vous prenez la crise de gouvernance, vous allez comprendre qu'il y a dedans la corruption, le tribalisme, il y a aussi les frustrations liées à l'insatisfaction populaire. C'est-à-dire la population se sent déjà abandonnée par les dirigeants et pour accéder à des dirigeants qui peuvent être capables de répondre à leur désiderata, donc ils sont obligés de recourir à la force. Et la force, c'est le coup d'État. Parce que vous allez comprendre que moi, je suis du monde citoyen. C'est depuis 2012 que nous avons commencé la lutte citoyenne. Au même rang avec les balais citoyens de Burkina Faso qui avaient embarrassé d'ailleurs un président de la République, ils ont chassé un président de la République. Et quand vous prenez aussi les mêmes années, il y a eu des soulèvements populaires partout là-bas. Mais ça n'a pas eu de réponse.
Est-ce que vous pensez que ce langage qui glorifie la prise de pouvoir par la force encourage indirectement, hein, d'une manière ou d'une autre, la violence et la militarisation de la politique?
Bien évidemment. Donc la vie politique est faite par les valeurs communes. Dès lors que l'on s'incarte, vous vous exposez aux sanctions. Vous vous exposez à des pratiques telles que les coups d'État. Et si le peuple accompagne les coups d'État, le peuple lui-même s'expose également. Dans la mesure où les putschistes qui arrivent ne peuvent jamais adapter la situation ou les cadres démocratiques. Parce qu'un putschiste est venu par la force. Et comment est-ce qu'il va s'accommoder à la démocratie? Dans ces cas-là, le peuple, il est tourné en bourrique.
Merci donc, Simon Mukenge. Je vous invite à présent à écouter un deuxième extrait de notre sketch, toujours avec nos amis, les étudiants. Alors que les brigadiers limogent les comités élus, certains étudiants ne tardent pas à témoigner leur soutien aux putschistes. Suivons.
Ce comité a trahi la communauté universitaire.
C'est
on ne veut plus d'eux, c'est clair, on ne veut plus d'eux.
Doucement,
quoi, Inki? On va être libérés, c'est ça qu'on voulait.
Écoute,
c'est ça qu'on voulait.
S'il te plaît, je reconnais qu'il y a eu quelques problèmes avec ces comités. Mais si on soutient qu'ils soient renversés en utilisant la force, vraiment, tu ne penses pas qu'on légitime l'usage de cette brute force ici au campus?
Un moyen de régler.
Oui.
Non. Attendez d'abord.
Oui.
Toi, tu dis ça parce que tu manges avec eux.
Oui, c'est clair.
Tu manges avec eux. Si tu vivais notre misère, tu serais pas en train de moraliser. Non.
Regarde,
oui. Je dis non. Il est temps de soutenir ceux qui osent mouiller le maillot. On en a assez.
Finalement, quelqu'un qui capte, hein. La liberté, ça ne se donne pas. Ça s'arrache.
Exactement.
Comment va étudier à Shima, mais bon, personne ne s'élèvera pour eux. Personne.
Oui, et si vous avez besoin de renforts pour les sortir de leur bureau et les dégager du campus, on est là.
Voilà.
On est là.
Voilà.
Vous êtes nos vrais soldats.
Merci beaucoup. Oui.
Non. Pardon. Ceux qui sont avec nous, tenez-vous prêts.
Quitte-t'en.
Ah non, on ne va pas se laisser marcher dessus.
Les gars. Les chiens peuvent aboyer, mais nous, on avance. Vous êtes prêts à nous suivre?
On est où?
Où vous restez?
On y va, on va là-bas. On va là-bas.
Mboui, toi tu dis ça parce que tu manges avec eux. Si tu vivais une autre misère, tu ne serais pas en train de moraliser ici, déclare l'un des étudiants qui dénonce ici la mauvaise gestion du comité déchu. Patrick Bahala, est-ce que la légitimation des coups d'État par les citoyens fait partie intégrante de la liberté d'expression?
Mais la liberté n'est liberté que quand elle est consciente. Quand elle est inconsciente, parce que dans ces cas, quand vous entrez dans la profondeur, vous trouvez que c'est une liberté inconsciente. Parce qu'après, les gens te regrettent toujours. Parce qu'une liberté consciente, elle s'est construite. Elle s'est construite sur une vision, sur une idéologie et sur des projections. Mais on risque de retomber dans ce qu'on a connu en 1960, l'indépendance. Tout le monde a attendu l'indépendance. On a vécu les théâtres de l'indépendance. Dès qu'on a proclamé l'indépendance, les gens étaient déçus. C'est quelque chose qu'on devait se partager, tout le monde devait être très riche. C'est la même chose avec la démocratie. Les gens pensent que la démocratie, c'est la liberté. Non, la liberté aussi a des limites, n'est-ce pas? Nous, nous restons par contre dans Jean-Paul Sartre pour dire l'enfer, c'est les autres. On se regarde pas soi-même. Ceux qui ont du mal à faire, ceux qui ont mal fait, ce sont les autres. Mais soi-même, on ne se demande pas ce qu'on a apporté, comme dit John Kennedy. Avant d'interroger l'État sur ce que l'État devait faire pour toi, pose-toi la question toi-même d'abord, ce que tu as fait pour que l'État, c'est ça la liberté consciente. Vous la construisez, et dans la liberté consciente, une fois qu'on a une éducation civique, c'est facile de se dire, face à telle question, on peut exprimer notre ras-le-bol. Vous comprenez? Sans violence, parce qu'on est déjà éduqué. Comment est-ce qu'on peut le faire? Par des sit-ins. Comment est-ce qu'on peut le faire? Par deux marches. Comment est-ce qu'on peut le faire? Par deux pétitions. On peut écrire, on peut faire des émissions, on peut sensibiliser les gens sans violence. Vous comprenez? Quand les gens arrivent à la violence sans passer par ces étapes, là c'est une liberté inconsciente. Vous comprenez? Et vous verrez, après cette liberté inconsciente, on va sacraliser le mal encore. Parce que celui qui a fait le putsch, comme je l'ai dit, n'est pas venu avec une vision. Lui est venu le pouvoir pour le pouvoir. Qu'est-ce qu'on va asseoir? Une certaine délinquance politique. Et la délinquance politique que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? Vous allez trouver les partis politiques en Afrique qui n'ont pas d'idéologie. Bien sûr, les idéologies écrites, il y en a. Qui n'ont pas de doctrine politique. Qui n'ont pas de philosophie politique. Si on demande aux gens, prenons la République démocratique du Congo, elle est assise, sa politique est assise sur quelle philosophie politique? Aucune. Mais ailleurs, quand on parle des Américains, c'est l'impérialisme. Ça, c'est leur fondement. Quand vous parlez de la France, on vous parle du prestige. Vous parlez de la Chine, on vous parle du win-win. Mais nous, nous sommes assis sur quoi? Vous voyez? Ça, c'est un problème africain parce que la démocratie qui a été dictée, cette démocratie ne trouve pas de racines, de répondants à l'intérieur. Nous trouvons la démocratie africaine, elle est plus dominée par les autocrates que par les démocrates. Donc, il va renforcer son pouvoir parce qu'étant assis, il a l'armée, il a la police. La police et l'armée qui sont à la charge des populations, et c'est cette armée, cette police qui va se retourner encore contre cette population. Vous voyez, cette rupture qui va s'asseoir va créer des grandes frustrations. La liberté a des limites, mais quand on arrive par exemple lors des coups d'État, on viole et on vole, on brûle, on casse. Là, c'est déjà une violation d'abord des droits fondamentaux des autres. Des fois, on brûle les véhicules des innocents, on brûle les maisons d'autrui. Vous voyez un peu tout ça?
Mais monsieur Bala, dans quelle mesure au fait les médias sociaux actuellement contribuent également à renforcer le discours qui légitime la violence et les coups d'État?
Bon, c'est pas seulement les médias sociaux, c'est tous les médias. La multiplicité de ces partis, parce que chaque parti veut donner du temps, n'est-ce pas, pour être reconnu et connu. Et qu'est-ce qui s'est fait? Chaque parti veut avoir un média qui parle pour lui. Et ce média aura véhiculé les messages au bénéfice de ses animateurs qui, d'ailleurs, n'ont pas de la qualité. Et à ce moment-là, ce sera des invectives qu'on fait entrer dans la population. Nous suivons tous ces débats, que ce soit en Afrique de l'Ouest, un peu partout là. Vous sentez que les débats sont désorientés, c'est-à-dire ne visent pas l'intérêt commun, mais les débats sont orientés vers les individus en termes d'insultes, en termes d'injures, en termes de sacralité, des valeurs qu'on appelle les antivaleurs telles que le tribalisme, le dépotisme, le clientélisme. Ce sont ces choses-là qu'on va chercher à vendre de plus en plus et on va s'asseoir dans ce que j'appelle la délinquance sociétale.
Merci Patrick Bala pour cette analyse. Je me tourne vers vous Simon Mukenge. Les dangers liés à la promotion d'un discours favorable au coup d'État peuvent-ils à terme se retourner contre les acteurs même qui l'ont encouragé?
Exactement. Soutenir la prise de pouvoir autre que la voie des urnes, c'est faire un saut vers le vide. Donc je peux donner un exemple, le général Robert Guiteau au niveau de Côte d'Ivoire contre le président Henri Konan. Les populations pensaient qu'en soutenant le général Robert, c'est le sali du peuple. Alors qu'en réalité, ce n'était pas pareil. Vous voyez ça? Et il y a eu confusion entre le peuple et beaucoup de gens sont morts. Parce qu'il y a une frange de la population qui soutenait le général en 1999 et une autre frange de la population était contre. La population se trouve abusée car ce mode d'accession ne crée aucune redevabilité entre le peuple et les dirigeants putschistes. ceux qui prennent le pouvoir par la force sont des personnes qui n'adhèrent pas aux valeurs démocratiques, comme je viens de le souligner.
En voyant tout ce qui se passe, lorsque la population ou les acteurs clés, les panafricanistes, soutiennent les coups de force des rébellions, quelle influence cela pourrait avoir sur la considération de l'Afrique sur la scène internationale ?
Sur la scène internationale, d'abord, cette attitude décrédibilise le continent africain parce que nous prouvons notre immaturité infime. Le monde qui nous lie prouve que nous ne sommes pas en mesure de respecter la Constitution, la Charte africaine des Nations Unies, pour ceux-là qui sont au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Charte de la CEDEAO, qui condamne la prise de pouvoir par la voie de la violence. Prendre le pouvoir en putsch ne donne aucune reconnaissance au niveau international. Il y a également l'isolement, pour dire qu'il faut que l'Union africaine et les autres puissent renforcer les mesures coercitives pour arrêter cette hémorragie qui applique les méthodes antiques, alors que nous devons respecter la démocratie et éviter toute mesure de recul.
Merci Simon Mukenge pour ces précisions. Avant de conclure, écoutons ce dernier extrait de notre sketch. Cette fois, les étudiants réalisent que le soutien aux actions de force n'apporte pas toujours la solution escomptée. Suivant.
C'est la cache des forces, non? C'est vous qui soutenez ceux qui souhaitent renverser les systèmes par la force, non?
Mais ben, tu vois, je les ai soutenus juste parce que j'avais envie que le comité change. Mais là, ça nous échappe complètement. C'est le chaos total.
Tu aurais dû penser bien avant.
Mais on fait quoi maintenant?
Vous auriez dû jamais légitimer ce changement du comité par la force. Tu sais bien que c'est contre les règlements. Et puis, comme tu vois, ça n'a rien réglé. Rien. Au contraire, ça empire les choses. Regarde, elle est blessée.
Et l'autre côté, ça n'a rien réglé.
Mais oui, peut-être, mais il faut dire aussi qu'ils n'ont rien foutu pendant leur mandat. Ils n'ont rien foutu. Hein? Toute cette rage, elle ne sort pas de nulle part. Hein? Ils n'ont rien fait.
Je comprends très bien. Mais il y avait d'autres voies. Par exemple, parler, mettre la pression sans violence, s'asseoir et régler le problème calmement.
Calmement.
Tous ces bordels, on aurait pu l'éviter quand même.
Tu as raison. Mais au moins, on a appris une leçon. Quand on joue avec la violence, c'est toujours elle qui gagne. Il faut qu'on change notre langage du soutien.
En tout cas, oui.
Tu as raison, au moins on a appris une leçon. Quand on joue avec la violence, c'est toujours elle qui gagne. Il faut qu'on change notre langage de soutien à la force, se rend compte l'un des personnages. Patrick Bahala, que faut-il faire pour mettre un terme à cette tendance verbale qui vise à légaliser le coup d'État et la rébellion?
Albert Camus dit quoi? Le but de la vie, c'est de mourir en vivant. C'est dire quoi? Notre société africaine, d'une manière générale, est assise sur des acteurs et non sur des penseurs. Donc, nous vivons sans penseurs. Il nous faudrait qu'on admette, parce que ceux qui prennent des postes de responsabilité, ils pensent devenir intelligents parce qu'on est ministre, parce qu'on en a. Non, non, l'intelligence, c'est autre chose. Parce que ceux qui sont au pouvoir ne doivent mettre en pratique que les pensées des penseurs. Donc, quand vous prenez ces grands États qui montent, prenez la Chine, la référence est Mao Tse-Tung, qui reste une référence, pas la référence en tant qu'individu, mais en tant que pensée. Donc, ce qu'est la Chine est aujourd'hui, ce sont les traces d'une intelligence et d'une sagesse assises qui font que la Chine continue à prospérer. Mais pas chez nous en Afrique. On n'a pas de référence philosophique, on n'a pas de référence idéologique, ni de doctrine de gestion. Donc, aujourd'hui, ce qu'il nous faut faire, j'ai créé quelque chose sur ça, je propose un nouveau système politique, par exemple pour la RDC, on aura partagé, je crois, dès la semaine prochaine, où je me dis qu'il faudra faire recours aux penseurs qui ont écrit, comme le Godefroy Kamana, comme Mabika Kalanda, ce sont des grands philosophes, le professeur Ngoma, qui est encore vivant, des gens qui vous montrent, par rapport à la situation, qu'est-ce qu'il faut faire pour nous éviter ceci ou cela. Parce qu'il faut éduquer cette population. Il faut construire l'homme. Avant de construire une chaussée, il faut construire l'homme. Parce que vous pouvez construire la chaussée et cet homme non édifié va détruire cette chaussée-là. Mais malheureusement, qui va construire cet homme? Parce que vous ne saurez pas éduquer l'autre si vous vous êtes mal éduqué. Il faudrait commencer à ce qu'on ait une nouvelle classe politique assise sur des fondamentaux tels que l'idéologie, la doctrine et la philosophie politique d'un État déjà construit. En ce moment-là, le système éducatif doit être revisité le plus rapidement possible. On éduque à l'école, à l'église, en famille, tout ça. Mais il y a aussi les conditions de vie. Parce qu'il faut comprendre que la dépravation de mœurs aussi est liée aux conditions de vie. Si on peut réparer ça, ça va résoudre de grands problèmes.
Merci beaucoup, docteur Patrick Bala. Simon Mukenge, quel rôle les médias et les acteurs de la société civile peuvent-ils jouer pour anticiper ces actes visant à promouvoir le recours à la force au détriment des valeurs démocratiques?
Ils doivent pleinement se rassurer qu'ils jouent leur rôle de contre-pouvoir avec efficacité, étant donné qu'ils constituent déjà les troisième pouvoir. Leur dénonciation critique constructive dans la surveillance électorale, en gouvernance et démocratie pourrait stopper les personnages qui nourrissent l'idée de putsch. Il faut qu'il y ait plus de critiques vis-à-vis des dirigeants pour pousser à faire mieux. Une élite citoyenne forte, la presse ou les médias qui sont forts dans leur mission réelle, soulèvent derrière leurs standards. Voilà un peu.
Alors, que peuvent faire les dirigeants régionaux pour prévenir les putsch sur le continent africain?
Comme mon co-débatteur vient de le dire, il faut un problème de sensibilisation et éducation. Parce que nous venons de définir cette question, parce que les mouvements citoyens ont un rôle de pression, mais les médias ont également un rôle d'information. Tout ça contribue à l'éducation de la communauté pour éviter. Mais pour répondre à ta question, les dirigeants doivent renforcer l'influence de l'Union africaine, les organisations sous-régionales, sur leurs membres. Et cela sur les deux volets. Premier volet, c'est le volet économique. Il faut renforcer les sanctions économiques. Le deuxième volet également, c'est le volet politico-militaire. Il faut qu'il y ait une capacité d'action dissuasive militairement pour arrêter cette hémorragie des coups d'État en Afrique. Vous voyez ça? Si j'énonce le premier volet, c'est le volet qui peut nous aider. Parce que militairement, vous avez vu la question de la CEDEAO avec les trois pays. Il n'y a pas eu grand-chose. La CEDEAO voulait intervenir militairement et nous avons tous suivi. Mais les trois pays ont formé un bloc et qu'ils ont dit, si vous voulez que nous puissions mettre du feu au niveau de la sous-région, nous sommes capables. Alors ça devient un jeu de ping-pong. Tu me frappes, je te frappe. Alors, sur les questions économiques, ça pouvait avoir un impact significatif.
Donc vous parlez d'un blocus économique.
Blocus économique.
Voilà, mesdames, messieurs, c'est sur cette note que nous concluons ces magazines. Merci infiniment à Patrick Bala et Simon Mukenge qui ont été nos invités. Ce que nous retenons de cette discussion, les coups d'État et les prises de pouvoir par la force traduisent souvent un profond malaise face à la gouvernance et aux institutions fragiles. Ils apparaissent pour certains comme une réponse immédiate à l'injustice ou à la corruption. Pourtant, l'histoire récente de l'Afrique montre que ces ruptures brutales n'ont que rarement apporté des changements durables ou positifs. Elles fragilisent davantage les États, accentuent l'instabilité et exposent les populations à de nouvelles souffrances.
Oui, Ronoli, et face à cela, la démocratie, malgré ses imperfections et ses lenteurs, demeure le cadre le plus légitime pour construire des sociétés stables et inclusives. Elle offre des mécanismes de dialogue, de participation citoyenne et de contrôle de pouvoir qui permettent de corriger les dérives sans recourir à la violence. La véritable solution ne réside donc pas dans la glorification de coups d'État, mais dans le renforcement des institutions démocratiques, la transparence ainsi que l'engagement citoyen.
Merci à vous et surtout retenez ceci, les armes prennent le pouvoir par la peur, mais c'est les urnes bâtissent l'avenir par l'espoir. Vous écoutiez C'est le ton qui fait la panique, une émission proposée par l'ONG La Benevolencia en partenariat avec Radio Okapi. Retrouvez cet épisode en rediffusion. C'est samedi à 11h05 et 19h05 ou en podcast sur www.radioocapi.net et www.abarirdc.net.
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et suggestions sur les pages Facebook et X de Radio Okapi et Abarirdc. Merci encore et à très bientôt pour un nouvel épisode de C'est le temps qui fait la panique. Au revoir.
Au revoir.
C'est le temps qui fait la panique.
Une émission de Bénévolentia en partenariat avec Radio Capital.